qui ne s'est pas inscrit.
Oui, en fait, c'est la même chose, parce que si vous vous inscrivez, vous recevrez la facture. Mais donc, le secrétaire académique me demande avec insistance que les élèves libres, les étudiants libres, s'inscrivent aujourd'hui, au plus tard, de manière à ce qu'ils puissent compléter ces fiches et ces dossiers. Voilà, nous sommes à la quatrième rencontre de cette série de réflexions sur rencontrer Dieu dans la liturgie, et le titre annoncé, et rassurez-vous, ce sera le titre réalisé, il sera question des deux tables de l'Eucharistie, la table de la parole et la table du pain. Dans les deux conférences précédentes, vous aurez remarqué que tant l'abbé de Clercq que moi, nous avons cherché à souligner l'importance de la résurrection comme fondement de la liturgie en général et de la présence eucharistique du Christ en particulier. Tant ce qu'on appelle le mouvement liturgique pendant la première moitié du XXe siècle que les documents conciliaires traitant de liturgie à partir de 1962, en réalité, ces deux mouvements, à la fois conciliaire qui a initié la réforme de la liturgie dans le monde catholique et le mouvement liturgique, ont résolument recentré le culte chrétien sur ce que le Concile appelle le mystère pascal de Jésus le Christ. Et donc pour les catholiques, désormais la liturgie ne se comprend qu'à partir de l'histoire du salut, puisque l'objet de la liturgie n'est autre que la continuation de l'action pascale de Jésus le Christ. L'objet de la liturgie, c'est la continuation de l'action pascale du Christ. Cette continuation et cette actualisation de l'agir du Christ permet de mieux comprendre les différents modes de présence du Christ dans la liturgie. L'abbé de Clercq les a rappelés la fois dernière. Je me permets de les reprendre. Cela figure au numéro 7 de la célèbre Constitution sur la liturgie de Vatican II. Il y a donc quatre lieux de présence actuelle et personnelle du Christ énumérés au numéro 7 de la Constitution sur la liturgie. 1. Le sacrifice de la messe, dans la personne du ministre et au plus haut point maximé sous les espèces eucharistiques. Donc, premier mode de présence, le sacrifice de la messe, c'est l'expression utilisée par le Concile au numéro 7. Deuxième mode de présence, les sacrements. Troisième mode de présence, la proclamation de la parole de Dieu. Et quel est le quatrième mode de présence, pour m'assurer que tout le monde est bien éveillé? L'assemblée. L'assemblée liturgique, c'est le quatrième mode de présence. Alors, il s'ensuit de cela que la réforme liturgique initiée par Vatican II va chercher à faire naître dans le cœur des fidèles une spiritualité à la fois nettement plus communautaire, plus ecclésiale, et une spiritualité plus pascale. Alors, en réalité, c'est loin, loin d'être le cas. Le lien entre l'Eucharistie et la résurrection ne va pas de soi pour beaucoup, beaucoup de chrétiens. Et je donne une anecdote. Vous savez que sur le site web belge, à savoir www.sjoseph.be, vous avez donc les conférences qui sont données ici à l'Institut dans le cadre de ce cycle de conférences. Et un paroissien de Saint-Joseph, donc de Waterloo, est tombé sur ces conférences en fréquentant notre site. C'est un homme âgé, relativement cultivé, fort âgé, qui m'a dit, j'ai lu la deuxième conférence, donc celle qui parlait de la résurrection. J'ai rien compris. Bon, ça ne m'a pas spécialement encouragé, c'est vraiment compliqué. Alors, les autres membres de l'équipe qui étaient là lui demandent, mais qu'est-ce qui est compliqué? Les mots? Non, non. Mais dire qu'il y a un lien entre l'Eucharistie, la résurrection et l'Esprit Saint, c'est incompréhensible. Ça n'a rien à voir. Je me suis dit, oulala, il a compris l'essentiel, c'est qu'effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ça m'a fort frappé de voir cette réflexion d'un aîné, pratiquant, profondément cultivé, et qui ne comprenait pas le lien entre l'Eucharistie, l'Esprit-Saint et la résurrection. Et je me suis dit, j'ai bien fait de faire la conférence, peut-être qu'elle a été mal faite. Mais c'est vraiment absolument essentiel de bien centrer, comme j'essaie de le faire, et comme l'abbé de Clercq l'a repris à sa manière autour du concept de la présence réelle, il est essentiel de recentrer les choses en liturgie sur la résurrection. Pourquoi ? Parce que ce n'est qu'ainsi que l'on peut, le moins mal possible, je crois, rendre compte de la présence agissante de l'Esprit-Saint au cœur de chaque sacrement. La spécificité de l'agir de l'Esprit s'appuie foncièrement sur cette réalisation qu'il a faite au matin de Pâques et qu'il continue de faire puisque le ressuscité nous donne son esprit. En fait, donc il y a un premier étonnement que vous avez déjà certainement rencontré sur le terrain, comme on dit, à savoir le lien entre la messe et Pâques. Une parenthèse, qu'il y ait une telle difficulté pour bon nombre de chrétiens à établir un lien entre l'Eucharistie et Pâques vient notamment de la difficulté pour beaucoup de chrétiens autour de la résurrection comme telle. Donc vous savez, ce n'est pas le propos ici, que dans bon nombre de sondages d'opinion auprès de personnes qui se disent croyants chrétiens ou même croyants catholiques, la résurrection est le point le plus difficile, le plus délicat. Beaucoup pensent, par exemple, que c'est totalement compatible, voire identique à ce qu'on appelle la réincarnation. Chez les jeunes, c'est une opinion qui est relativement répandue. En tout cas, je l'ai rencontrée souvent. Deuxième surprise, c'est de voir, au fond, à quel point la signification spirituelle des rites et des grandes dimensions de la messe semble étrangère à beaucoup. Je veux dire ceci, c'est que beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre et même à découvrir que dans la messe, il y a un ensemble, que, pour dire ça de manière un peu plate, que ce n'est pas du plic-ploc, qu'il y a d'abord un peu de ça, et puis de ça, et puis de ça, et puis on termine par item missa est, donc la messe est dite, et on s'en va. Et donc, dans les paroisses, et notamment dans ceux d'entre vous qui sont dans une équipe liturgique, le tout grand premier service qu'on peut rendre, c'est d'essayer de montrer davantage encore l'unité des différentes parties de la messe. Pour ceux qui sont familiers avec cela, ils pensent que c'est évident, mais ce n'est pas du tout. Alors, question numéro 2. Combien y a-t-il de parties dans la messe ? Qui ose risquer ? Alors, fondamentalement, il y en a deux. Mais souvent, en catéchèse, dans un but pédagogique, on en cite 4. Mais donc, d'après ce que la réforme liturgique nous propose, elle nous dit fondamentalement qu'il y a 2 parties principales. Je ne vais pas avoir le culot de vous demander de les énumérer. Donc, c'est d'une part la liturgie de la parole, et d'autre part, la liturgie eucharistique. Ce sont les 2 parties. Alors vous allez me dire, et la prière universelle ? Elle fait partie de ce qu'on appelle la liturgie de la parole, qu'elle conclut. Et ce qu'on appelait jadis l'offertoire, et qui est maintenant l'apport des dons, ou parfois aussi la préparation des dons, fait partie de la liturgie eucharistique, de même que les rites de communion. Et donc, ce sont donc 2 ensembles. Avec ça, on n'a pas encore dit grand-chose, parce que l'os, la grande difficulté, je crois, à la fois d'un point de vue théologique réflexif, surtout d'un point de vue de la praxis, de la pratique liturgique, et d'un point de vue spirituel, la grande difficulté, c'est comment articuler ces 2 grandes parties de la messe. Pas simplement intellectuellement, mais comment peut-on, en vivant la liturgie, et en vivant de la liturgie, comment peut-on davantage approfondir le lien intrinsèque entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique ? Tous deux tiennent ou tombent ensemble. Ce sont donc 2 ensembles dans un ensemble plus grand. Le rite d'ouverture ouvre à l'action liturgique, y introduit, y prépare, et le rite de conclusion tourne l'assemblée vers l'extérieur. Je n'invente rien, en fait, cette insistance que je fais à l'instant, elle se retrouve dans l'introduction au missel romain, et donc, vous le savez sans doute, que chacun des sept sacrements sont donc proposés à nos célébrations en fonction d'un programme, en fonction d'une organisation séquentielle. On ne commence pas par la communion pour terminer par le kyrie. Et donc, ce programme, cette organisation séquentielle, en termes techniques, on l'appelle un rituel. Donc, chacun des sept sacrements possède un rituel qui non seulement explique ce qu'il faut dire ou faire, mais surtout, et particulièrement depuis le Concile Vatican II, pourquoi on le fait. Et donc, si vous avez du temps ou si ça vous intéresse, je ne peux que vous recommander chaudement d'aller lire les introductions qui sont à la fois théologiques et pastorales à chacun des rituels. Alors, dans la vie, il faut savoir être partisan, le tout et d'en être conscient. Pour moi, le plus beau des rituels, c'est celui de la réconciliation. L'introduction à ce qu'on appelait dans le temps la confession, l'introduction du rituel à la réconciliation est un véritable bijou d'un point de vue à la fois pratique et d'un point de vue théologique. En clair, si vous ne l'avez pas lu, et tous les prêtres devraient l'avoir lu, ce dont je doute, en clair, on insiste sur le fait, oui j'en doute, parce que je crois que un certain nombre de mes confrères ne se rendent pas compte à quel point, non seulement on a changé le nom, on ne parle plus de confession mais de réconciliation, mais on a changé, si vous voulez, la logique profonde, dans la mesure où l'importance du nouveau rituel, enfin, le nouveau rituel souligne l'importance de la parole de Dieu. Fondamentalement, on invite le pénitent à s'arc-bouter, à s'appuyer sur la parole de Dieu, car c'est elle qui va nous éclairer sur notre faute. En termes stratégiques, en termes militaires, au fond, la stratégie du péché est de nous aveugler. On ne le voit pas. C'est le sens du reste pour quelques personnages qu'on voit sculptés autour de ces superbes porches de cathédrale en France. On voit souvent quelqu'un avec un bandeau. Alors on dit c'est la philosophie qui était méprisée comme servante par la théologie. Pas nécessairement. Je pense que c'est souvent un symbole de l'homme pécheur qui en fait ne voit pas. Il est aveugle. Qu'est-ce qui permet de le voir? La parole de Dieu. Il y a ce grand passage de David, quand il commet cette faute avec Bethsabée, tout Jérusalem en parlait de cette affaire, mais sauf lui qui s'enfonce, David, de plus en plus dans sa faute. À un moment donné, Dieu lui envoie le prophète et qui lui dit, cet homme, c'est toi. Et donc, la grandeur de David, à ce moment-là, c'est de reconnaître sa faute et de se prosterner devant le Seigneur. Donc voilà, pour le sacrement de l'Eucharistie, il y a également un rituel. Et ce rituel, vous le trouvez dans toutes les paroisses, j'espère, puisqu'il introduit le missel. Donc, le missel romain, qui est utilisé habituellement dans les paroisses, enfin, sauf si on prend prix en église, mais ça m'étonnerait quand même qu'on prenne ça pour célébrer, enfin, on peut, bien sûr, eh bien, les missels romains, quelle que soit leur taille, petit ou grand, sont précédés d'une introduction qui s'appelle PGMR. Présentation générale du missel romain, PGMR. Et ce n'est pas uniquement des rubriques. Il y a également dans cette introduction des insistances, des accents, et en même temps aussi le souci de départager l'important de l'accessoire. Et donc, cette longue parenthèse, pour vous dire que dans la présentation générale du missel romain, donc on souligne que fondamentalement, la messe comporte deux parties. Je lis, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, mais, continue la présentation générale, elles sont si étroitement liées qu'elles forment un seul acte de culte. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc dire que la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique sont liées au point de former un seul acte de culte, c'est exactement cela qui est en jeu, non seulement dans la conférence ce soir, mais surtout dans chacune de nos participations à l'Eucharistie, et c'est, me semble-t-il, une des parties les plus délicates de nos célébrations aujourd'hui. Je continue le rituel. En effet, la messe dresse la table aussi bien de la parole de Dieu que du corps du Seigneur, où les fidèles sont instruits et restaurés. Et donc, dans les notes, vous verrez un petit développement sur l'importance en liturgie, dans les études liturgiques, hein, de montrer à quel point un rite doit être le signe de la réalité qu'on célèbre. On y reviendra quand on parlera des symboles un peu plus tard. Le but des études liturgiques est de montrer combien le rite doit signifier la réalité que ce rite célèbre. Et dans le cas de la célébration eucharistique, le signe, c'est un ensemble d'éléments. C'est ça qui est difficile. Ce n'est pas uniquement la parole, ce n'est pas uniquement la communion, ce n'est pas uniquement le kyrie ou la bénédiction finale, c'est un ensemble. Et donc, comment peut-on demander à un rite de signifier l'unité d'éléments apparemment aussi disparates? Est-ce que je vais être suffisamment goujat pour insister, mais quand vous célébrez avec des classes, avec des jeunes, donc je crois que je vous ai dit ça la fois dernière, donc on a eu cette chance d'avoir, donc, dans ma paroisse, on a eu 3000 jeunes, puisqu'il y a à peu près 5000 élèves sur le territoire de la paroisse, et donc de plus en plus les écoles redemandent, comme on dit, des messes de rentrée. Et donc c'est très frappant de voir quand on célèbre l'Eucharistie, autant ils sont relativement attentifs, enfin heureusement qu'il y a le préfet de discipline qui n'est pas loin, mais donc ce sont des célébrations entre 250 et 350 élèves, donc des grands groupes, et préparés au préalable dans les classes. Alors, autant ils sont relativement attentifs dans ce qu'on appelle la liturgie de la parole, mais si vous ne savez pas quand commence la liturgie eucharistique, vous n'avez qu'à écouter. Ils commencent par bouger les pieds, à bouger ceci, à tirer la tresse quand on est en primaire de la voisine qui précède. Et donc, on voit très clairement qu'il y a chez eux comme naturellement, si vous voulez, une difficulté d'articuler ces deux parties. Et quand vous demandez à des moins jeunes, à des adultes, quand vous demandez des impressions sur la messe, ils disent, la première partie c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie quand le prêtre cause tout seul, Et donc ils ont l'impression que la deuxième partie, c'est l'affaire du prêtre. Eux, ils peuvent dans le meilleur des cas dire amen. Donc c'est un vrai problème, je crois, vous le savez tous, cette articulation des deux tables. Alors, pour l'aborder, je voudrais vous proposer de dire quelques mots sur une partie qui n'est pas suffisamment prise en compte, alors que psychologiquement et donc pastoralement, elle est à mon avis essentielle. C'est ce qu'on appelle les rites d'ouverture de la célébration. C'est le début. J'ai assez insisté lors de la première rencontre sur le fait que la liturgie est une action, on fait quelque chose. Et donc, quand vous agissez, c'est important de soigner le début de votre action, et si possible, la suite et la fin. Mais le début est essentiel. Et donc, dans le temps, on parlait des rites d'entrée de la messe. Mais Paul VI a préféré l'expression « ouverture de la célébration ». Quel est le but de ces moments? Alors, en fait, pour pouvoir comprendre le but, il faut, une fois de plus, rappeler les différents modes de présence de Christ dans l'Eucharistie qui, en fait, ont été énumérés et juxtaposés de manière un peu différente après le Concile dans un document assez remarquable publié par le Vatican et qui s'appelle « L'instruction sur le culte du mystère eucharistique » en latin « Eucharisticum Mysterium ». Et dans ce document, on parle des modes principaux, je cite, « selon lesquels le Christ est présent à son Église et ces modes se manifestent successivement lors de la célébration de la messe ». Alors, je trouve pour ma part que pastoralement, c'est une présentation extrêmement intéressante. Donc, il dit, les modes selon lesquels le Christ est présent à son Église se manifestent successivement lors d'une célébration de la messe, puisque le Christ apparaît d'abord présent dans l'assemblée des fidèles réunis en son nom, puis dans la parole quand on lit et qu'on explique l'écriture. 2. 3. Ensuite, dans la personne du ministre. 4. Enfin, d'une façon unique, dans les espèces eucharistiques. On a parlé des espèces eucharistiques la fois dernière. Je vous parlerai du ministre en parlant du président de l'Assemblée. Mais je voudrais ce soir retenir les deux premiers modes de présence, à savoir dans l'Assemblée réunie et dans la proclamation de la parole. C'est assez remarquable de voir que l'Assemblée des fidèles réunis au nom du Christ, que ce soit la première manière dont le Seigneur manifeste sa présence. Et donc, la découverte de la présence du Christ dans la parole proclamée, dans le ministre qui préside la liturgie et dans le pain et le vin consacrés dépendent, je crois, pour une large part, en tout cas, si pas théologiquement, psychologiquement, de ce premier mode de présence du Christ, à savoir sa présence dans l'Assemblée. Cette présence dans l'Assemblée, du Christ dans l'Assemblée, elle ne va pas de soi. Car même si on se connaît par cœur la promesse, et Dieu sait s'il nous a déjà aidés à des moments plus sombres de notre existence, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. En réalité, demandez à des personnes, vous déléguez Paris Match ou Nouvel Observateur si vous préférez, qui interviewent ceux qui entrent dans l'Église, et vous leur demandez où le Christ est-il présent, je parie, bien que ce n'est pas bien de parier, que il y a très peu de personnes qui vont vous dire d'emblée, mais il est présent grâce à nous qui sommes ici rassemblés et qui allons nous laisser inviter autour de son autel. Et donc, pour pouvoir voir, pour pouvoir détecter cette présence-là, cela demande une certaine qualité de regard, un regard de foi, un regard spirituel, que pastoralement, on peut aider à faire grandir, ne serait-ce que dans la monition d'accueil, dans le petit mot, qui doit en principe être petit, donc il ne faut pas faire une première homélie au moment où on accueille l'Assemblée, donc je ne connais personne ici comme célébrant, donc je peux y aller, et donc ce n'est pas une bonne chose d'être trop long dans cette monition, mais si cette monition pouvait au moins aider les fidèles présents à découvrir à quel point ils font ensemble corps du Christ, et à quel point, de par leur présence, le Seigneur est là au milieu d'eux. Alors, en fait, il y a quand même un petit truc, il y a quand même un adjuvant, enfin, je peux être aussi léger, il y a quand même quelque chose qui va nous aider, à, en tout cas les célébrants, à aider l'Assemblée à découvrir cette présence du Christ. Et ce petit truc, enfin, c'est pas un truc, cette aide pour pouvoir entrer dans cette manière de voir, c'est l'invitation initiale du célébrant, le Seigneur soit avec vous. Et l'Assemblée répond, et avec votre esprit. Autrement dit, en fait, cette invitation du célébrant, qui est une formule, comme vous le savez, profondément biblique, c'est la fameuse salutation de l'envoyé de Dieu, l'ange, pour exprimer que Dieu agit, que ce soit auprès de Gédéon, que ce soit auprès de Marie, il y a d'autres exemples. Et donc, en réalité, cette invitation suggère à l'Assemblée que le Christ est réellement présent au milieu d'eux. Et l'Assemblée répond, et avec votre esprit, donc il y a différentes interprétations à cette réponse. Je crois pour ma part que une bonne interprétation, c'est de faire un parallèle avec ceux qui connaissent parmi vous la règle de Saint Benoît, où il donne comme règle d'or de la prière, en latin, « mens concordet voci ». Traduction libre, de grâce, que le mental concorde avec le vocal. Que lorsque vous priez, lorsque vous prononcez une prière, est-ce que vous savez réfléchir sans mots, même tout bas? Quand quelqu'un veut réfléchir, quand quelqu'un veut articuler des concepts, ou qu'il veut prier, même tout bas, il n'y a pas moyen sans mots. Je veux dire que on peut, je ne dis pas qu'il n'y a que des mots dans la prière. Mais la prière telle que Saint Benoît en parle à ce moment-là, c'est une prière qui est avec un substrat verbal. Et donc, celui qui prie est invité à correspondre au niveau de son esprit à ce qu'il dit, et non pas à suivre le papillon qui vient d'arriver, le moustique ou bien la guêpe. La guêpe, c'est plus difficile de rester zen. Donc, en fait, l'assemblée invite le célébrant à être à son affaire, à être en réalité en concordance avec cette présence du Christ au cœur de l'assemblée, et cette présence du Christ que lui, comme célébrant, va bientôt symboliser de manière tout à fait spécifique. Vous savez que c'est précisément à cause de l'importance de ce mode de présence du Christ dans l'assemblée réunie autour de l'autel, c'est à cause de cela que les normes liturgiques demandent de ne pas mettre le tabernacle derrière le maître-autel. Et donc, il est suggéré de mettre le tabernacle à un autre endroit que derrière l'autel. Et donc, dans les églises où c'est possible, dans les églises récentes, on le met souvent sur le côté. Pourquoi ? Parce que les grands lieux de présence du Christ, c'est d'une part l'autel, et c'est d'autre part ceux que l'autel rassemble. La première présence, et pour ce qui concerne ce qu'on appelle la sainte réserve eucharistique, comme l'évoquait l'abbé de Clercq la fois dernière, je sais que ce sont des positions qui sont un peu controversées, l'adoration eucharistique, en fait, elle est ciblée dans le prolongement de la célébration de l'Eucharistie. Je ne pense pas, pour ma part, que ça doit être dans le prolongement mécanique et temporel, juste après, et qu'il ne puisse pas y avoir d'adoration à d'autres moments. Mais bon, chacun ses opinions à ce sujet-là. Donc, le début de la célébration est un moment important. Et sur le terrain, dans nos célébrations dominicales, c'est un moment qui est particulièrement difficile à réaliser. Pour beaucoup de personnes, la messe commence de façon trop brusque, trop abrupte. Pourquoi ? Eh bien, j'ai énuméré quatre causes. La première raison, c'est qu'il faut passer de la dispersion au rassemblement. Ce qui est beaucoup moins difficile lorsque, par exemple, on célèbre l'Eucharistie au terme d'une journée de retraite, de récollection, ou au terme d'une journée de réflexion avec des jeunes, par exemple. C'est clair que quand on célèbre l'Eucharistie à la fin de la journée, ce moment-là où on passe de la dispersion au rassemblement est beaucoup plus facile. Mais l'individualisme d'aujourd'hui, particulièrement en Occident, fait qu'on a du mal à se considérer comme ça d'emblée, à froid, j'allais dire, comme faisant partie d'un peuple. C'est un des gros problèmes dans la liturgie actuelle, cet individualisme. Alors, deuxième difficulté, après qu'on se soit reconnu comme membre du corps du Christ, il faut aussi, et je crois que c'est plus difficile, découvrir qu'on est appelé, qu'on est en termes techniques convoqué, qui est la signification du terme hébreu « kaal », d'où va venir le mot « ecclésia ». Donc, on est convoqué, on est appelé, on est invité pour accueillir ensemble le Christ qui est à notre tête. Troisième difficulté, il faut aussi passer de la vie à la prière, non pas rompre les solidarités de la vie quotidienne, mais il faut rassembler ces solidarités pour qu'elles soient le lieu aussi de l'accueil de Dieu. Et donc, ici, il y a un très délicat équilibre entre parole et silence. Parole avec le voisin et silence. Faut-il se taire ou faut-il parler ? Donc, dans ma paroisse, je crois que ce n'est pas la seule, il y a les partisans de dire « il faut être à l'entrée de l'église, il faut accueillir tout le monde, et de grâce que les gens se parlent parce que nous sommes une communauté ». Ça, c'est la tendance A. Et la tendance B dit « mais on va rencontrer le Christ, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, de grâce qu'on se taise ». On entend déjà des bruits de tous côtés pendant toute la semaine. Et donc, c'est un équilibre qui est délicat. Enfin, il faut se situer face à Dieu. Il n'y a pas de vraie prière sans un interlocuteur devant lequel on se tient. Dieu est un « tu » et non un « il ». Ceux qui connaissent bien notre cardinal, Gottfried Danels, savent combien il insiste là-dessus. Et c'est fondamental. Tant que vous parlez de Dieu à la troisième personne, il, ou lui, ou même Dieu, à la troisième personne, il y a encore du chemin à faire. Le propre de la prière, c'est de s'adresser à lui, à la deuxième personne. Seigneur, toi, tu. C'est beaucoup plus personnel. Alors, Un dernier élément qui concerne le rite d'ouverture de la messe, hein, et qui est un élément qui fait rudement difficulté en pastorale, c'est la préparation pénitentielle. Et là, si vous avez quelques confidences, le jeûne, bon, il n'y a personne qui a commis des péchés, donc ils ne sont pas directement concernés. Enfin, beaucoup ne sont pas concernés par ça, ils se demandent ce que ça vient faire. Par contre, au niveau des adultes, ils vous disent, mais ce n'est pas possible. Je viens rencontrer mon Seigneur, il veut mon bonheur, et voilà qu'on commence à me rappeler que je suis un vil pécheur. Et on me culpabilise. Donc j'ai régulièrement entendu cette objection. Alors, il faut bien savoir que dans la liturgie eucharistique, la partie qu'on appelle préparation pénitentielle n'est pas un rite pénitentiel autonome. Donc ce n'est pas une célébration communautaire de la pénitence, alors parce qu'on n'a pas de temps pour la mettre par ailleurs. Donc en fait, le rite pénitentiel fait partie des rites d'ouverture et doit rester très sobre. Et ici, il est bon de se rappeler que pénitentiel veut dire non pas aveu des péchés, mais conversion. Autrement dit, ce rite, à ce moment-là de la messe, n'est pas fait pour culpabiliser l'assemblée, mais pour la libérer et lui donner d'accueillir la miséricorde de Dieu, pour la tourner vers Dieu, sa conversion. Le rite pénitentiel, d'où vient-il ? Il n'est pas ancestral, dans la mesure où les traces que nous avons des premières liturgies romaines ne le comportent pas. D'où vient ce rite ? Au départ, je vais vite refermer cette parenthèse historique, au départ, ce sont les prières personnelles du prêtre. Le prêtre avait un certain nombre de prières à dire à voix basse, qui ne concernaient pas l'assemblée, parce que ça concernait sa propre dévotion et surtout la prise de conscience de sa propre indignité à célébrer le mystère eucharistique. Et puis progressivement, on a donc extériorisé les prières du prêtre de façon à ce que tous puissent en bénéficier. Alors, quand on regarde la tradition catholique de ce rite pénitentiel, on voit qu'il s'est situé à différentes places et même à trois endroits différents de la messe. Pendant un temps, ce rite pénitentiel s'est situé avant la communion. C'est sa place la plus traditionnelle, mais qui a l'inconvénient de rompre l'unité entre la grande prière eucharistique et le partage du corps du Christ. En plus, il y a une redondance parce que pourquoi prie-t-on ensemble notre Père avant de communier ? Précisément pour cela. Le but, c'est d'accentuer cette demande « Pardonne-nous comme nous nous pardonnons ». Donc l'insertion de notre Père à ce moment-là de l'Eucharistie est fondamentalement liée à un but pénitentiel. Deuxième place, après la liturgie de la parole, c'est ainsi que fait ce qu'on appelle le rite zaïrois. Et c'est une bonne idée, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, avec l'image de la sculpture de l'homme aux yeux bandés, en fait, c'est la parole qui nous révèle le plus correctement possible nos manquements à l'Alliance. Ce n'est pas uniquement le remords. Parce que souvent, le risque, je reviens au sacrement de réconciliation, alias la confession, c'est que quand c'est dicté par le remords, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? On va souffrir parce qu'on aura l'impression que nos confessions sont routinières. On va dire que c'est toujours la même chose. Alors, on est hélas toujours pécheur, mais quand on part, si vous voulez, d'une shopping list, un peu de ceci, un peu de ça, un peu de ça, c'est tout mon père, et donc on part, si vous voulez, de la conscience qu'on a de notre faute, certes, mais c'est notre conscience. Tandis que si vous partez davantage de la parole de Dieu, qui souvent surgit sur nous de manière pas toujours attendue, par exemple, dimanche dernier à la messe, on a entendu tel évangile, et au moment de l'écouter, on se dit, mais tiens, ça je ne vis pas, pas comme ça. Eh bien, c'est l'occasion, lors de la prochaine occasion de se réconcilier avec Dieu, de dire, voilà la parole, voilà son appel, et voilà l'horizon, le désir qu'il met en moi. Hélas, je ne le vis pas parce que ceci ou ça. Voyez. Et donc, quand le rite zaïrois place la partie pénitentielle après la proclamation de la parole, c'est une bonne idée du point de vue théologique et du point de vue psychologique, parce que cela évite de nous enfermer trop sur le remords et sur notre propre désir de perfection. Mais, en fait, le risque, c'est de, si vous voulez, de réduire la parole de Dieu à un rôle unique, à savoir être la fontaine ou la source de mon examen de conscience. Donc, et puis, il y a également une difficulté au niveau de la rupture de l'unité entre la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Alors, la troisième place, hein, avant la communion, après la liturgie de la parole, la troisième place, c'est l'actuelle, c'est au début de la messe. C'est une très bonne place pour des communautés chrétiennes bien formées, comme par exemple la communauté qui se réunit lors des messes quotidiennes. Mais c'est moins heureux avec une assemblée diversifiée comme celle du dimanche, car le but de cette assemblée est bien de conduire les fidèles à la louange et à l'action de grâce, et non pas à insister sur la culpabilisation, ce qui est archi facile à faire et qui est souvent peu évangélique. On ne sent pas le Jésus le Nazaréen, on ne le sent pas manier et utiliser le registre de la culpabilité. Pas du tout. C'est pas ça qu'il fait. Mais c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de péché, loin de là. Voilà quelques mots pour le rite d'ouverture. Venons-en maintenant, deuxième paragraphe, la table de la parole, et le troisième paragraphe, ce sera la fraction du pain. Donc, comme vous le savez, à la suite des pères de l'Église, le Concile Vatican II va reprendre la comparaison de la table pour exprimer le caractère nourricier de la parole de Dieu. Celui qui veut saisir le lien étroit entre la table de la parole et la table du pain doit commencer en fait par redécouvrir la dimension pneumatique, c'est-à-dire la dimension, oserais-je dire, gorgée d'Esprit Saint de cette première partie de la messe. C'est essentiel. Car cette liturgie de la parole, avec au plus haut point la proclamation du Saint-Évangile qui en est le sommet, ne représente rien de moins que le Christ qui, aujourd'hui encore, ici et maintenant, hic et nunc, parle à son peuple. Et donc, il y a une première forme de présence sacramentelle du Christ, pardon, une deuxième forme de présence sacramentelle du Christ dans l'Eucharistie, c'est par le biais de sa parole. Que vient faire l'Esprit Saint? Comme vous le savez, c'est l'Esprit Saint qui non seulement inspire la rédaction des Écritures, c'est l'Esprit Saint, secondo, qui inspire, qui pousse à l'annonce de la parole de Dieu, et puis c'est l'Esprit Saint qui favorise la fruition de la parole de Dieu dans le cœur des fidèles. Donc l'Esprit Saint est actif au niveau de l'inspiration de l'Écriture, au niveau de l'annonce de la parole de Dieu et de sa transmission, et enfin au niveau de ses fruits, de sa réception dans le cœur de chacun. Et donc, la parole de Dieu, la liturgie de la parole, n'est pas une simple préparation de ce qui va suivre. Dans le temps, on appelait ça l'avant-messe, l'abbé de Clercq qui a fait allusion la fois dernière. Et si on loupait l'avant-messe, ce n'était pas grave. Il fallait arriver au moment où on dévoilait le calice. Beaucoup ont dû connaître ça. Moi, je me souviens que mes parents étaient fort pratiquants. Et donc, en fait, on nous emmenait tous les dimanches à la messe jusqu'à nos 18 ans, non, jusqu'à 21 ans, puisqu'on était majeurs. Et donc, jusqu'à nos 21 ans, nous devions y aller. Et en réalité, mes parents se sont débrouillés pour qu'enfin, pour ma part, en tout cas, ça a plutôt bien fini, puisque j'ai fini par y consacrer une partie de ma vie, en tout cas, enfin, à célébrer l'Eucharistie. Et en fait, je me souviens très bien de moments où on nous entraînait, parfois tôt le dimanche, puisqu'à l'époque, il fallait encore être à jeun. Et donc, quand on arrivait en retard, il n'y avait pas de problème, donc d'autres arrivaient aussi. Mais quand on arrivait et qu'on voyait que le prêtre retirait ça, maman prenait ses 5 enfants et son mari, et hop, on allait chercher une autre église. Donc, on habitait Louvain-la-Veuve, donc Leuven à l'époque. Et donc, on a cherché une autre messe parce que la messe n'était pas valide. Donc, c'était une compréhension très, 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 très rubriciste à l'époque. Donc, maintenant, hélas, quelques-uns le croient encore, hein, aux grandes dames des curés de paroisse, quand on voit le retardataire arriver. Mais ce que je constate, avec grand bonheur, c'est que beaucoup sont quand même là à partir de la deuxième lecture. Hein. Et alors, pour flatter mon ego, quelqu'un m'a fait remarquer que à certaines célébrations, parce qu'on a fini par savoir quelle était laquelle des six messes qu'on a chaque week-end dans notre église, donc ce n'est pas fréquent, mais donc on a six messes dans cette paroisse chaque week-end, ils sont venus par repérer quelle était la messe où je célébrais, où je prêchais. Et donc, on a repéré deux personnes qui arrivaient pour l'évangile et puis qui repartaient après le sermon. Et donc, quand on m'a signalé ça, j'ai demandé une audience pour essayer de leur expliquer qu'ils perdaient leur temps, en fait, hein, qu'en réalité, il fallait entrer dans toute l'action liturgique. Donc, ça veut dire que les gens ne s'ennuient pas nécessairement au sermon, mais quand on ne vient que pour le sermon, à mon avis, on perd son temps. Donc, la question de la présence du Christ au cœur de la parole de Dieu est profondément liée à la présence et à l'action de l'Esprit Saint, et le but en fait est bien de découvrir à quel point la table de la parole va recevoir comme finalité la table du pain. Mais cette table du pain est elle-même profondément marquée par la table de la parole. C'est ce qu'il faut démontrer. L'écoute de la parole fait partie, en réalité, du chemin qu'il faut suivre aujourd'hui encore pour découvrir la présence du Seigneur sur les espèces du pain et du vin. Et comme argument, bien entendu, vous devinez bien ce que je vais avancer comme argument liturgique, c'est le fameux récit des disciples d'Emmaüs, hein, où on demande, quand on demande aux enfants du catéchisme, qu'est-ce qui fait qu'ils ont reconnu Jésus, hein, réponse, à la fraction du pain, parce qu'il est marqué, hein, littéralement, « alors leurs yeux s'ouvrirent ». Ont-ils raison de répondre cela? Je ne le crois pas. Parce que, en réalité, ils le reconnurent au moment de ce geste. Mais ils précisent, quelques versets plus loin, « notre cœur n'était pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait des Écritures sur le chemin ». Et il ne fait pas que parler, ce qu'il y a de remarquable dans cette rencontre, hein, d'après saint Luc, c'est que Jésus, le Verbe fait chair, la parole de Dieu, quand on est parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On commence par écouter. Ça, c'est très remarquable. Hein. Notre Dieu est un Dieu d'écoute, bien avant d'être un Dieu de parole. Et Jésus, comme nous faisons beaucoup dans nos pastorales de funérailles, il écoute le deuil des personnes. Et il écoute donc ce qui s'est passé. Quand vous rencontrez des personnes éprouvées, il n'y a pas à dire, mais écoutez, ma fille, soyez forte, hein, il faut avoir foi en la résurrection, et il n'y a pas de problème, il est heureux maintenant de l'autre côté. Bah, un peu maladroit. Donc la première chose à faire, et qui est toute naturelle, c'est de dire, quand a-t-il décidé, comment ça s'est passé. Donc ce n'est pas du voyeurisme. Les gens qui vous partagent cette énorme souffrance, surtout au moment du décès, ils sont en quelque sorte comme heureux, enfin comme un temps inalibéré de pouvoir narrer, de pouvoir raconter. Et c'est ce que fait Jésus. Donc il leur donne l'occasion de... Et quand ils ont parlé tous leurs sous, qu'ils ont parlé et puis, hein, donc Jésus va leur parler et il va leur parler d'Écriture sainte. Et vous savez, il va aller chercher un peu comme un enfant va prendre les plus gros raisins dans un cramique. Jésus va aller prendre des passages de l'Écriture qui le concernent, mais qui le concernent en tant que frère de ces deux hommes éplorés, et qui rejoint ces hommes dans leur souffrance. Et donc, il ne leur sort pas la Bible qu'ils connaissaient largement par cœur, en tout cas par pan entier, il ne leur sort pas la Bible comme on brandira un manifeste, mais il va leur permettre de trouver du sens à cette horreur qu'ils viennent de vivre grâce à la parole de Dieu. Et c'est pareil dans l'Eucharistie. C'est que le but de la parole de Dieu est aussi de nous aider à trouver sens dans les appels que Dieu nous adresse au cœur de notre vie quotidienne en écoutant à sa parole. pas en la choisissant. Il y a là à se laisser inviter. Et il n'y a pas systématiquement à célébrer l'Eucharistie avec le texte que j'aime. Il y a à se laisser interpeller par la parole de Dieu, telle qu'elle est vécue en Église. Et c'est souvent très, très parlant, si je puis me permettre ce jeu de mots. Il y a des destins entiers qui ont basculé comme ça. Je ne résiste pas à la parenthèse, vous raconter, si vous ne la connaissez pas, la vocation de saint Antoine. Non pas saint Antoine de Padoue, mais le grand saint Antoine. Hein, donc celui qui passe pour être le père des moines, donc Antoine d'Égypte. Hein, et qui, en réalité, était un relativement jeune encore, pratiquant. Et puis un jour, nous dit saint Athanase, donc l'évêque d'Alexandrie, qui raconte sa biographie, un jour à la messe, hein, il entend un passage d'évangile, hein, qui fait que, en réalité, Antoine se dit, mais c'est pour moi ça. Et donc, il sort de l'église, d'après saint Athanase, il vend la moitié de ses biens, qui était énorme, parce que ses parents venaient de mourir, puis il a une sœur plus jeune que lui, donc il ne veut pas la spolier totalement, et puis il va s'installer dans une hutte aux confins du village, avant de se tirer beaucoup plus loin dans les Céliens, dans les déserts d'Égypte. Donc il y a de très nombreux exemples comme ça, où on voit à quel point une parole tout à fait inattendue, brusquement, peut provoquer un changement de parcours, un changement de chemin. Donc l'écoute de la parole fait partie du chemin qu'il faut découvrir aujourd'hui encore pour reconnaître la présence du Seigneur dans les espèces du pain et du vin. Comme les disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qui va se passer après avoir rencontré le Christ, après avoir écouté sa parole? Eh bien, leur route a pris un sens nouveau. Fondamentalement, la parole de Dieu donne du sens. Ça veut dire, d'une part, indique une direction, indique le sens de la marche, et d'autre part, la parole, je viens de l'évoquer longuement à propos de saint Antoine et d'autres exemples, la parole révèle une signification. Elle va être ce qui va nous aider, hein, à mieux comprendre notre vie, à faire en sorte que notre destin n'est pas clos et encore moins aveugle. Du neuf peut arriver. Accueillir la parole, c'est accueillir un ailleurs qui vient, qu'on ne choisit pas comme tel. Il y a un aujourd'hui de Dieu dans ma vie. Demain peut être différent de hier. Demain peut être différent de hier. On a fêté il y a très peu de temps, hier, Sainte Thérèse d'Avila. Vous savez que sa véritable conversion, elle n'était plus toute jeune. Et donc, en réalité, quand Sainte Thérèse va basculer définitivement dans l'orbite de la grâce, bien qu'elle se reconnaisse grande pécheresse, c'est également, on voit bien que parmi les immenses mérites de cette femme d'action et de contemplation aussi, il y avait ce don d'être ouvert à un avenir. Et ça, c'est caractéristique de notre identité chrétienne. C'est que nous ne sommes pas arrivés vers le passé. Nous n'avons pas reçu des tickets gratuits pour entrer dans une machine à remonter le temps. Nous sommes tendus vers l'avenir, vers ce qu'on appelle en termes techniques l'eschaton, ou la parousie. Je vais y revenir pour la fraction du pain. En termes plus simples, c'est le chrétien foncièrement est un être d'espérance. Et donc, qui dit espérance dit les dés ne sont pas pipés. Et l'Eucharistie nous rappelle ça de A à Z. Vous allez voir tout à l'heure comment c'est le cas aussi pour la fraction du pain. Pour que la liturgie soit vivante, il faut sans doute que les chrétiens redeviennent des hommes de la parole et non du livre. Et donc, la distinction, c'est que la parole est vivante, le livre, il est là, il est une autorité, certes, mais qu'est-ce que le livre s'il n'est pas vécu, s'il n'est pas écouté, s'il n'est pas reçu en communauté, en église? Vous trouvez dans la note quelques remarques, enfin un rappel que la Bible est née dans un environnement liturgique. Ce que nous appelons le Sitzimleben et que les Allemands appellent das milieu de vie, le lieu où la Bible naît, c'est en fait un contexte liturgique. Ce sont les rassemblements, notamment au Mont Sinaï, où qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle ce que Dieu a fait et on s'engage. Comme dit très joliment Hans Urs von Balthasar, dans l'engagement de Dieu. C'est un magnifique titre. Et C'est ce qui nous est offert à chaque sacrement. Hein. C'est de nous situer dans l'engagement de Dieu. Comme je l'évoquais dans la première conférence, dans chaque sacrement, fondamentalement, c'est Dieu qui s'engage. Hein. En langage d'un enfant d'une cour de récré, c'est lui qui a commencé. Mais c'est fondamental de nous rappeler ça, parce que ça évite beaucoup de découragement dans la vie spirituelle. Et en même temps, si je peux me permettre ce terme un peu horrible, sur le marché mondial de religion, c'est notre spécificité. Par rapport à toutes les autres religions, je crois que la grande spécificité, c'est Dieu nous a aimés le premier. C'est lui qui prend l'initiative. On ne doit pas se mettre sur la pointe des pieds, retrousser ses manches et avoir une crampe, voire une tendinite, parce qu'il faut construire une tour de Babel pour arriver au ciel. Mais il faut ouvrir les mains et accueillir cette initiative de Dieu. Tout est là. Concrètement, comment favoriser la perception par l'Assemblée de l'unité des deux tables, la table de la parole et la table du pain? Alors, je vous propose 5 pistes. D'abord, le rituel de la messe, donc alias la présentation générale du missel romain, insiste sur un meuble particulier, qui soit conforme à ce que la présentation générale appelle la dignité de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'ambon, A-M-B-O-N, l'ambon. Et l'ambon, c'est un support destiné à recevoir, et à ne recevoir seulement, que le lectionnaire. Et cet ambon devrait être stable, plutôt qu'un pupitre mobile. Il doit servir aux lectures, à l'homélie et à la prière universelle. Il faut éviter que l'ambon soit utilisé par le cérémoniaire, alias le commentateur, s'il y en a un, ou le chantre. Donc il est extrêmement important, si les lieux s'y prêtent, que l'ambon soit réservé à la parole de Dieu, à cette liturgie-là. Ensuite, deuxième truc, c'est qu'il faut faire attention à la disposition des lieux. C'est que dans l'aménagement de l'espace où on célèbre la liturgie, l'idéal, c'est que l'agencement même contribue à l'unification des différentes parties de la célébration. Et donc, il y a deux grands pôles dans une célébration, c'est l'ambon et l'autel. Quand, par exemple, des futurs mariés, des fiancés me demandent de célébrer leur mariage, bon, avec joie, puis il me pose la question des fleurs, qu'est-ce qu'il faut fleurir? Je dis, écoutez, ça dépend de votre budget, certes, mais si vous voulez faire bien, eh bien, je vous invite à fleurir un l'autel, deux l'ambon. Ce sont les deux grands lieux importants pour votre engagement. Et donc, il faut que l'ambon et l'autel soient mis en valeur et qu'ils ne soient pas trop éloignés l'un de l'autre. Ils ne doivent pas être collés l'un à l'autre, mais ils ne doivent pas être trop éloignés, trop espacés non plus. Troisièmement, il faut veiller à la signifiance des intervenants. En clair, les personnes et les fonctions de ces personnes doivent souligner l'unité des deux tables. Ça ne veut pas dire que pour ça, unité ne veut pas dire fusion. Donc il faut éviter que ce soit le même qui fasse tout. Mais il faut que dans les intervenants, il faut que cette unité puisse être suggérée. Et donc, il faut éviter l'amalgame des fonctions chez les intervenants. Et il faut éviter aussi le strict cloisonnement à la seule table. Il faut pouvoir déployer les parties qui tournent autour des meubles qui ne sont pas l'autel. Quatrième piste, dans nos préparations de liturgie, donc quand on réunit par exemple nos équipes liturgiques, il faut bannir trois fois au bic rouge l'idée tenace qu'en dehors des paroles de la consécration et de la communion, rien n'est vraiment essentiel. Je crois que c'est encore très présent. L'important, quand il y a une messe, c'est la consécration et la communion. Que la consécration soit importante, petite histoire que vous connaissez sans doute, quand j'étais petit, enfin je veux dire plus petit, j'avais un jour reçu à Saint-Nicolas, comme cadeau, une énorme boîte, et c'était le parfait manuel et déguisement du prestidigitateur. Et donc, il y avait une cape noire, il y avait un chapeau, il y avait le bâton, enfin, tout ce qu'il fallait. Il y avait un lapin faux, bien sûr, hein, et quelques trucs truqués. Mais il y avait aussi la formule. Et quelle est la formule du prestidigitateur? C'est « hocus pocus pass ». Ça, c'est la formule magique par excellence. D'où vient-elle? Hic est corpus meus. En fait, on a bien compris que les paroles de l'institution en latin étaient à ce point sacrées, parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il y avait relativement une certaine ambiance dans les célébrations liturgiques jadis, hein, puisqu'on ne comprenait rien, c'était en latin. Hein. Ne serait-ce qu'on entendait les chapelets, des chaises qui bougeaient, des bancs qui claquaient, enfin bref. Et donc, en fait, ça bougeait, quoi. Et donc, en réalité, au moment de la consécration, il y avait un coup de cloche, il y avait un silence, mais un silence. Et on s'est dit, ce qu'on entend là, ça c'est vraiment extraordinaire. Et donc, on a détourné ça, bien sûr, et on a fait une formule magique par excellence. Et donc, cette compréhension-là, de l'importance de la liturgie liée à des mots, est absolument à améliorer, dans la mesure où c'est l'ensemble de l'action qui va favoriser différents modes de présence du Christ. Et ce sont des quatre modes que nous sommes invités à nous enrichir, pas uniquement d'un seul des quatre, qui en général est mal compris quand on le sépare des trois autres. Cinquième piste, l'homélie devrait à chaque fois faire explicitement le lien entre la parole lue et la démarche de communion qui va suivre. Le but de l'homélie n'est pas de faire un cours d'exégèse, mais s'il y a communion sacramentelle, de faire un lien entre les deux. C'est plus facile à dire qu'à faire, et pourtant, parfois, deux phrases suffisent. Voilà, voilà. Le temps passe, et j'ai encore à vous dire plus que quelques mots sur la table du pain. Le rite de la fraction du pain prend place à un moment précis de la célébration eucharistique. Et ce moment est à prendre en considération. Parce que la fraction du pain, en fait, hein, intervient à sa place, c'est-à-dire après la liturgie de la parole, après la préface, après le récit de l'institution, hein, et ce rite ouvre sur ce qu'on appelle communément la communion. Alors, si on regarde l'ensemble de la célébration, on voit qu'il y a une dynamique. Hein. Il y a une unité. Et cette unité part de la constitution de l'assemblée en Église, le Seigneur soit avec vous, le Christ présent là où deux ou trois sont réunis en son nom, et donc celui qui va présider l'assemblée. Et puis donc on part de l'assemblée constituée en Église, on passe par la table de la parole, le Christ, Verbe fait chair, est celui qui parle à son Église dans les Écritures, et on va vers la table de l'Eucharistie, ceci est mon corps livré pour vous. Quand on regarde la partie strictement eucharistique de la messe, je voudrais souligner trois caractéristiques. La première, c'est que, et ceci me paraît être vraiment essentiel et je crains très méconnu, la présence eucharistique advient au sein d'une prière. Ce n'est pas simplement un constat ou un procès-verbal. Hein. Ce n'est pas simplement un constat de ce que Jésus a fait, hein, le jeudi saint, hein, et puis on va... Non, c'est une prière. Et une prière dont le mouvement va de la mémoire du passé vers la mémoire de l'avenir. De la mémoire du passé vers la mémoire de l'avenir. Et cette mémoire de l'avenir, c'est « Viens, Seigneur Jésus ». Dans cette perspective, la présence eucharistique ne peut être comprise que à partir d'une double distance entre, d'une part, le « hier » du Golgotha et du tombeau vide, et d'autre part, l'avenir que nous ouvre la parousie. S'il fallait mettre, pour le théologien parmi vous, s'il fallait mettre en pratique le fameux adage « lex orandi, lex credendi », la loi de la prière est norme pour notre foi, un des lieux pour faire un beau traité sur l'eschatologie, c'est la célébration de l'Eucharistie. Deuxième caractéristique, la présence du Christ ressuscité, pardon, du Christ Eucharistie, est indissociable de l'épiclèse, hein, qui, je vous le rappelle, implore l'Esprit Saint pour qu'il sanctifie le pain et le vin, pour en faire le corps et le sang du Christ, afin que ceux qui communieront à ce corps et à ce sang soient rassemblés en un seul corps. On a déjà beaucoup parlé. Troisièmement, regardons de plus près le récit de l'institution. Non. Et en fait, quand on regarde la double parole sur le pain et sur le vin que Jésus prononce, cette parole ne dit pas simplement la présence du corps et du sang du Christ, mais Jésus prononce ces paroles sur le pain et sur le vin comme un don pour souligner quatre fois au bic rouge, hein, en grec hyper. Hein. Voici mon corps pour vous, voici mon sang pour vous. Et donc, Jésus prononce ces paroles sur le corps, sur le pain et sur le vin, non pas absolutées, mais relativées. Il ne prononce pas ces paroles pour dire de façon magicienne ou de façon métaphysicienne, ce pain est mon corps, mais ce qu'il veut souligner, c'est cet être en relation, ce pour vous, sa vie donnée. Un très bon exégète allemand, Hans Schurmann, parle de pro-existenz, hein, une existence pour, hein, pour autrui. Et cet être en relation est souligné par le geste de Jésus. Hein, prenez et mangez, hein, rompre, donner. En plus, le matériau utilisé, le pain et le vin, est indicateur de cette relation de don. Donc le récit de l'institution, bien loin d'être figé, il est ouvert au sens où il est en relation. Il est essentiel au pain d'être partagé. Il est essentiel au vin d'être partagé également. Et donc, le pain comme le vin sont faits pour la convivialité. Alors, ce que vous verrez dans les notes, parce que le temps avance, c'est que dans le rite de la fraction du pain, j'emprunte cette réflexion à Louis-Marie Chauvet, je la trouve magnifique, il souligne le fait que quand vous faites une fraction, en fait, vous créez un vide. À partir du moment où il y a une fraction, il y a un vide entre les deux morceaux, et puis ils ne sont plus entiers. Et en réalité, par la fraction, le vide est creusé dans le pain, non pas un vide physique, mais un vide profondément symbolique, puisqu'il s'agit d'un partage, d'un vide pour, dont l'intention est la communion avec autrui. C'est une très belle manière, certes imagée, spatialisée, hein, agissante, hein, c'est une belle manière d'exprimer ce que Paul a voulu dire avec le terme de kénose, hein, où le Christ n'a pas cherché à garder, à ravir, hein, hein, pour lui. Hein, le grec dit arpazone, et c'est de là que vient le fameux harpagon de Molière, hein. Le Christ n'a pas cherché à garder pour lui comme un avare, hein, le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est dépouillé, hein, ekénosen, hein, donc il s'est vidé, pas pour être vide, mais il s'est vidé pour nous. Et c'est ce pour qui est très fortement accentué dans le récit d'institution. Alors des spécialistes disent que on ne peut bien comprendre le récit d'institution qu'en tant que résumé de la vie de Jésus. Cette ouverture pour l'autre, cette pro-existence, c'est toute sa vie, ça. Il a cherché à faire ça quoi qu'il arrive, et même dans l'adversité, même quand tu lui as fait une crasse dans le dos. Il continue à être pour vous. Et donc, si effectivement, le récit même de l'institution rappelle, d'une part, cette orientation fondamentalement de Jésus pour nous, avec cette offre de communion, et qu'en même temps, les mots qu'il dit et les gestes qu'il pose cherchent à résumer toute sa vie, comment pourrait-on alors snober la liturgie de la parole qui en réalité, pour sa part, par petits morceaux, précisément, nous remet en mémoire des éléments essentiels de la vie de Jésus. Et donc, voyez à quel point la liturgie de la parole peut nous permettre ainsi de mieux donner sens, hein, à la table qui n'est pas à la table du pain, qui n'est pas toujours identique. Et c'est la raison pour laquelle, ce n'est pas tout à fait orthodoxe, mais quand je célèbre l'Eucharistie, juste avant de communier, je propose toujours de mémoire deux, trois mots, maximum un demi-verset, de l'évangile qu'on vient d'entendre avant de recevoir le corps du Christ. Je ne crois pas que c'est une grande hérésie, Mais cela permet, si vous voulez, au moment de communier, de nous remettre en mémoire cet aspect de la vie donnée de Jésus qui, en réalité, n'a pas été improvisé. Ce don de soi, hein, le soir du Jeudi Saint, est préparé par toute une série de moments, par une série de paroles, d'actes, et qu'il est bon de réentendre en mémoire, tout simplement, afin d'en vivre. Avant le break, encore ceci, vous savez que les évêques de Belgique ont proposé comme thème cette année, hein, rencontrer Dieu dans sa parole. Ils ont largement diffusé une très belle plaquette sur ce thème. Mais tout récemment, on vient de publier deux petits instruments qu'en principe, tous les curés de paroisse ont reçus et que vous trouverez également au CDD. En tout cas, au Brabant Wallon, ils l'ont reçu. Hein, à Bruxelles, je ne sais pas. Et donc, d'une part, cela s'appelle « Rencontrer Dieu dans sa parole ». Et le sous-titre, c'est « Guide de lecture pour les acteurs en liturgie ». Et l'autre, c'est « Proclamer la parole hein, », guide pratique pour les lecteurs. Donc, celui-ci est fait pour les lecteurs, et celui-ci est davantage fait pour les équipes liturgiques. Alors, c'est très bien fait. Franchement, c'est très bien fait, c'est très clair, on va à l'essentiel. Je ne m'en suis pas trop inspiré ce soir, parce que on n'y détaille pas de façon approfondie précisément le lien entre les deux tables. On sait surtout quand on est à la première table, celle de la parole, mais M. Michelin dirait « vaut le détour ». Voilà, à jeudi prochain.